Donc voilà, alors là, je prends avec quelques poudres et je vais vraiment enchaîner, si, ça se, si je traîne pas trop sur ce truc-là, sur Gauguin. Et voilà, alors j'explique un peu au niveau des sujets. Il y a des gens, tu vois, j'aborde pas Van Gogh, qui est un artiste majeur, moi non plus, mais j'abordais de façon détournée, ou quand on a vu Bert Morisot, quand on verra Gauguin, on abordera aussi Van Gogh d'une certaine manière, etc. Donc l'idée, c'est pas d'être exhaustif, sinon il y aura. Vous avez vu un peu l'angle d'approche. De la même manière, Picasso, je ne l'ai pas programmé, mais on va voir Juan Gris, on va voir Matisse, on abordera aussi un certain nombre de choses comme ça. Il y a des recoupements, c'est, de toute façon, c'est infini. Hein. Dès qu'on creuse un peu, on n'arrête pas de trouver d'autres sujets, c'est terrible. Donc, alors voilà, on était avec l'âge mûr, hein, vous vous souvenez de Camille Claudel, qui est un ensemble, un groupe. Où il y a une part d'expression personnelle et intime, affective, de sa déception de voir finalement Rodin renoncer à elle définitivement, affectivement, hein, parce qu'en tant qu'artiste, on peut dire que Rodin continue toujours d'estimer, même d'admirer Camille Claudel. Par contre, il y a un problème que Camille Claudel, dont Camille Claudel souffre souvent, jusque tard, c'est qu'on l'accuse ou on dit qu'elle est influencée par Rodin, que son travail c'est du Rodin, voire que c'est Rodin qui fait ses œuvres. Au point que même dans une de ses lettres, elle dit, mais surtout qu'il ne s'approche plus de moi ou de mes œuvres, parce qu'on va encore dire que c'est lui. Donc, si vous voulez, elle est aussi. Elle a beaucoup de mal à affirmer, exister en tant que femme amoureuse de lui, etc., c'est une chose, mais y compris elle se bat en tant qu'artiste. D'ailleurs, juste, c'est bête, j'aurais dû la mettre, il y a un petit fascicule, 6 euros, qui est très bien fait. Vous avez des textes et des extraits de lettres Camille Claudel illustrés par certaines de ses photos. Mais je l'ai trouvé au musée Camille Claudel. La prochaine fois, je le ramènerai si j'y pense. Et il est très, 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 très bien et très émouvant, y compris parce qu'il y a des lettres envoyées de l'asile. Hein, et ça aussi, c'est. J'ai bien un livre. Alors, rappelez-vous aussi qu'elle a des. Elle a un style. Au niveau de la sculpture, les. Style, le mode de représentation n'a pas tellement changé en fait depuis presque la Renaissance. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une approche mimétique des corps, alors plus ou moins réaliste, plus ou moins expressionniste, mais on n'est pas du tout encore dans une sorte d'écart comme feront les cubistes ou Max Ernst ou Giacometti, etc. Par contre, les inventions de Camille Claudel, elles sont aussi, je vous ai dit, dans le rapport au socle. Socle, espace, etc., dans le délitement un petit peu du bloc sculpture, une sorte de fragmentation qu'on va trouver assez souvent, hein, avec le mouvement, le déséquilibre, et puis ce rapport au sol, comme ça. Donc, là, Rodin et elle, en tant que sculpteur et sculptrice, abordent aussi la matière, hein, les matériaux, avec la présence, par exemple, on peut voir presque les traces de doigts, les traces sur le plat, sur la terre. Ça, c'est des choses. L'idée du non-fini aussi, parfois, dans les plâtres, avec les coulures, les sutures, les accidents qu'ils vont assumer, elle et lui. Et puis, on avait vu aussi l'assemblage de matériaux, ce qui était aussi quelque chose, on l'avait vu dans plusieurs de ces petites sculptures, déjà dans la vague, hein, puisque vous aviez de l'onyx, hein, et puis du bronze. Donc, un jeu aussi sur les couleurs. Dans les cheminées aussi, vous avez des matériaux différents. Mais on est encore dans, on va dire, les matériaux nobles. Hein. Donc, il y a quelque chose ici qui s'attend. Alors, il ne faut pas oublier quand même qu'elle est jeune. Et elle meurt en 43, donc on verra plus tard des artistes contemporaines. Mais c'est difficile d'imaginer ce qu'aurait fait Camille Claudel jusqu'en 1940-43 si elle avait pu sculpter et être toujours dans le milieu artistique, etc. Donc, si vous voulez, on est encore là dans une cultrice du fin 19e, hein, qui par certains côtés aussi est peut-être une des dernières grandes classiques. Alors ça, je crois que je vous l'avais montré, hein, et c'est aussi l'intérêt de la sculpture un peu petite, c'est qu'on peut la voir sous plusieurs angles, pas uniquement tourner autour, mais même au-dessus, etc. Donc le côté monumental n'est pas toujours le plus approprié pour une sculpture, hein, et Camille Claudel, avec ses petits volumes comme les causeuses, ou la vague, ou même l'âge mûr qui n'est pas si grand que ça, sont des sculptures aussi qu'on peut appréhender avec des multiplications de points de vue. Alors ça nous rappelle un peu Degas, hein, cette idée de tourner autour, et même au-dessus parfois des sculptures, où elles se révèlent à chaque fois avec chaque angle révèle des qualités propres de la sculpture, et on est toujours surpris par ces points de vue. Ça, je vous l'avais montré, je crois.
Oui, oui.
Ouais, ça, c'était les études et les brouillons. Ça aussi, je crois que vous l'avez montré. Non, peut-être pas. Alors voilà, ça c'est intéressant parce que justement, on voit que Rodin aussi a abordé la question de l'âge et du corps et du temps qui passe et du vieillissement. Alors ici, de deux manières différentes. Une qui est plus ancienne, je crois qu'on voit bien le titre en dessous. Ça s'appelle « Celle qui fut ». La belle Aulmière ou la vieille courtisane. Un titre un petit peu rétro, on va dire, c'est un bronze. Donc on a ici une femme âgée, amaigrie, les seins aplatis, etc., avec le visage creusé. Alors la photo est intéressante aussi, c'est une photo que Rodin a demandé, parce qu'il travaille toujours avec des photographes. Et dans son atelier, lui aussi n'arrête pas de jouer avec les dispositions de ses sculptures. Par exemple, même il va jusqu'à faire en sorte qu'une des premières versions des bourgeois de Calais, il fait ériger un énorme socle en bois à l'échafaudage, mais qui fait peut-être 4-5 mètres de haut. Il fait installer la sculpture pour voir ce que ça donne d'en dessous, hein, voir si elle est mieux en haut ou à terre. Ce sont des exercices parfois, et il demande à des photographes de faire des photos, toujours très intéressantes, pour essayer de comprendre un petit peu la mise en scène de ces sculptures. Et il lui arrive aussi parfois, dans un coin d'atelier, quand il y a une lumière particulière, où un regard, une sorte d'accident, cette belle lumière, là, il a fait pivoter le socle, on voit le dessous du socle, et tout d'un coup, appuyé comme ça contre un drap, et il fait une mise en scène nouvelle de sa photo. Donc il joue très souvent avec les angles de vue, Rodin. Même dans la porte de l'enfer, qui est au musée Rodin et au musée d'Orsay, enfin, version en bronze au musée Rodin, faite après sa mort, une version en marbre au musée d'Orsay, eh bien, vous allez retrouver des parties, certaines de ces sculptures, on trouve le penseur, on trouve les ombres, on trouve la belle Aulmière, on trouve d'autres, mais qui sont orientées parfois différemment. Au lieu d'être verticales, ils sont obliques ou perpendiculaires. Lui aussi, il joue avec les angles de vue, donc c'est quelque chose qu'il partage, Camille Claudel et lui, sur ce rapport avec l'espace qui est vraiment exploré. Alors, la photographie lui permet à Rodin de faire ce genre d'expérience. Et là, la photographie aussi lui permet de faire des rapprochements, comme ce drapé et le bronze, puisque tout d'un coup fusionne, si vous voulez, en noir et blanc, et de façon figée, quelque chose qui est pérenne, le bronze, qui est dur, puis quelque chose qui est souple et éphémère, c'est le pli dans le drapé, etc. En les photographiant, c'est comme si la sculpture unifiait des matériaux pourtant bien différents, et d'où son intérêt aussi pour la photographie. C'est un truc bête, mais la photographie, elle fige dans le temps et l'espace, la sculpture aussi. Parce que vous voyez, comme ils sont en plus à l'époque, la photographie est en noir et blanc, vous avez aussi un rapprochement logique entre photo et sculpture que Rodin comprend parfaitement. Et on voit que ça lui permet aussi d'expérimenter les regards et les points de vue. Et puis des lumières, par exemple, il va faire des photographies à contre-jour. Tout d'un coup, la sculpture devient juste une silhouette. Autrement, une lumière rasante, une lumière zénitale, des lumières contrastées, etc. Donc, à chaque fois, il va jouer aussi, il va explorer ses sculptures grâce aux photographies. Photographies qu'il retravaille aussi parfois avec des coups de crayon, des coups d'encre, etc. C'est un travail en continuation. Vous voyez, là, c'est pour le dispositif. Sur le thème, sur l'âge aussi, c'est quelque chose que Rodin va faire plusieurs fois, comme par exemple ici. Cette sculpture dont le thème est la stérilité, hein, et bien vous avez effectivement ici deux personnes âgées, alors ici une femme, ici peut-être un homme, je ne sais pas, mais on retrouve cette idée de Camille Claudel, c'est-à-dire d'un socle englobant, hein, de quelque chose qui va contenir, où les sculptures ne se dégagent pas du sol, et au contraire, il y a une prolongation du sol, voire du socle, par presque une sorte d'environnement, hein, de décor. Et puis l'intérêt aussi pour les corps variés. Hein, au lieu d'avoir, rappelez-vous, les corps stéréotypés, je vous ai montré la Athéna en héroïne de BD sexy, quasiment, en fait, c'était assez hallucinant, les corps lisses. Rappelez-vous, c'est ce que disait Baudelaire, hein, des corps lisses comme ça et académiques, il disait des nus de beurre blanc. Hein, on dirait que c'est des structures sculptées qui n'ont pas de matière. Rodin, de ce point de vue-là, et Camille Claudel, se coltine avec la chair, hein, le corps, le vieillissement, la jeunesse, etc. Quelque chose de très vivant. Donc, on trouve chez Rodin des proximités, hein, des problématiques qui sont... et c'est difficile de dire, on ne peut pas, je pense, de dire qui influe qui, puisque là, il y a une véritable complicité. Donc, quand Camille Claudel fait l'âge mûr, eh bien, Rodin a des sources tarées. C'est ça. Alors ça... Ah ben ça aussi, je vous ai montré, Sakuntala, d'accord. Et là, la version, vous voyez, une version plus récente de Sakuntala, où Camille Claudel, effectivement, ben, laisse, les fragments, les blessures, les sutures, les choses, justement, inachevées, comme des marques, un petit peu, de la vie. Avec quelque chose qui est intéressant, c'est l'idée que la sculpture est comme un être vivant, puisque si la sculpture est abîmée, ça devient un peu performatif, c'est-à-dire que c'est comme si la personne était, c'est une façon de suggérer les accidents de la vie, les blessures intimes, ou etc. Et donc, si le travail inachevé ou les accidents, le hasard, une part de hasard, ou les rencontres, c'est une nouvelle façon de regarder la sculpture. Ça, je vous l'avais montré, voilà. Ah bon, donc en fait, et ça, j'avais montré. Non, alors voilà, j'étais peut-être arrivé ici avec Clouto, qui est. Alors, je crois que c'est l'une des parcs, Clouto, hein, donc les femmes qui tissent, qui filent et qui filent, qui tissent et qui coupent le fil de la vie, hein, qui sont vraiment les maîtresses du destin de chaque vie. Et là, c'est une version presque expressionniste encore de la mort. Avec une femme, alors on retrouve le même sujet, hein, de cet corps flétri un petit peu, etc., amaigri, qui a perdu ses dents, décharné, et avec une espèce de prolifération difficile à identifier, est-ce que c'est la chevelure, est-ce que ce sont des fils, et vous avez vu que chez Camille Claudel aussi la chevelure peut être intéressante, que ce soit chez les causeuses ou dans la vache, ou dans la petite châtelaine, c'est que sculpter les cheveux, de codifier ça, elle en fait aussi un mode d'expression, parce que les cheveux, c'est quelque chose aussi qui est fluide, hein, qui est vivant, qui est ouvert, et Camille Claudel souvent travaille cette idée du flux. Mais là, c'est un coup un flux qui retombe, comme des lambeaux de chair, comme un poulpe, comme des choses assez monstrueuses, qui sont en train de dévorer cette figure, comme si toute la vie est sortie, hein, et retombée sous forme presque de déjection effroyable sur ce corps abîmé. Alors, anatomiquement, c'est remarquable, hein, parce que la façon de la colonne vertébrale, les muscles du bassin, des fesses, etc., ou les côtes avec la chair, etc., c'est un travail exceptionnel. Là encore, elle a un grand culot, parce qu'on reprochait à Rodin parfois d'avoir fait des sculptures sur des sujets qui n'étaient pas beaux. Par exemple, l'homme au nez cassé, hein, on a reproché ça, d'avoir des sujets... Rodin prenait ses modèles, parfois, dans son voisinage. Hein, le corps de Balzac, il avait pris chez un tourangeau. Il savait que, comme Balzac était le tourangeau, il est allé en Touraine, et c'est voir qu'il n'y avait pas un grand costaud qui pouvait être une sorte de double de Balzac. Il a pris ses modèles souvent comme ça. Son voisinage, hein. L'homme au nez cassé, c'était presque une sorte de voisin plus ou moins SDF. L'âge des reins, c'était un jeune soldat. Enfin, si vous voulez, il allait prendre des modèles. Donc ça aussi, ça lui était reproché. Donc cette idée de faire du beau avec du lait, hein, ou jusqu'à quel point, qu'est-ce que ça veut dire le beau, c'est aussi une question esthétique qui est abordée par Camille Claudel, parce que comment est-ce que quelque chose de déprimant, presque d'effroyable, de monstrueux comme ceci, peut rester beau. Alors justement, on est loin d'une esthétique un peu du joli. Hein, on est dans quelque chose de beaucoup plus puissant. Ici, la beauté, c'est la corrélation entre le sujet, la façon dont il est exprimé, hein, l'espèce de côté cathartique, un petit peu, d'aller jusqu'au bout d'une idée et de l'exprimer avec cohérence. Alors, Clouto, voilà, les études aussi, là vous la voyez en entier, c'est assez incroyable. Surtout qu'elle est jeune, hein, Camille Claudel, quand elle fait ça. Donc il y a une sorte de prémonition d'une vieillesse catastrophique. Elle n'imagine pas qu'elle sera enfermée, évidemment, pendant presque 30 ans. Mais vous avez là comme quelque chose qui est totalement anxiogène sur le temps qui se passe, avec cette clôture qui est empêtrée dans cette espèce de prolifération monstrueuse. Et là, encore, ce sont des études avec le ventre décharné. Puis vous voyez les traces de doigts, presque une sorte de martèlement, un dur presque, où le corps lui-même est, elle n'est pas dans l'imitation non plus. Elle est dans la traduction aussi de l'âge et de la décrépitude, entre guillemets. Alors voilà une de ses dernières œuvres qu'elle va travailler pendant très longtemps. Elle qui est là, on la voit. Alors c'est Camille Claudel à droite. Hein, donc ça n'a pas du tout l'image de la jeune fille qu'on peut voir. Hein, elle a une quarantaine d'années. Elle a seulement une quarantaine d'années là. Devant une sculpture qui est assez terrible, c'est Persée et la Gorgone. Donc avec. Normalement, il y avait un bouclier ici. Un bouclier. Et la tête de. Méduse, ici, le corps de Méduse. Mais effectivement, ce qui est assez incroyable, regardez la tête de Camille Claudel et la tête de...
Ouais, c'est quoi.
En fait, c'est quasiment... Ouais. C'est un autoportrait. C'est un autoportrait en Méduse. Alors, attendez, je crois que je l'ai... Zut. Je l'ai en plus grand. Là, on la voit mieux. Et... alors, on va percer la Gorgone, 97. Hein, et là, on la voit devant... Photo de... Là encore, j'ai un peu tassé. Donc. La photo de droite, j'aurais dû l'écarter un petit peu, parce que je l'ai trop allongé. Mais on voit la photo de gauche. Alors, cette sculpture est au musée Camille Claudel, à Nogent-sur-Seine. Et en plus, elle dit que Percé l'a mis. Ça se rapproche du portrait de son frère. Donc, son frère, Paul, il aurait exécuté sa soeur. C'est avant qu'il l'abandonne quasiment complètement. Donc, est-ce qu'il n'y a pas... Enfin, c'est assez incroyable. Mais tu aurais dit quelle est cette femme dangereuse, monstrueuse, entre guillemets, qui va finir par se faire couper la tête, et dont le corps est totalement abandonné et projeté par terre et prostré. Alors là, c'est une sculpture extraordinaire, où le corps est replié de la méduse, hein, et qui est sublime du point de vue du vivant, du corps, de l'anatomie et de l'abandon. Alors, il y avait des thèmes, hein. Encore, il y a le rapport avec Rodin, il y a une sculpture de Rodin qui est assez proche chez Danaé, qui est comme ça au sol, avec la chevelure qui se fond avec le socle. Mais vous avez aussi toujours un rapport ici au sol, hein, la chute, hein, on avait vu ça, c'était important. Et puis, cette idée aussi du débordement, tout à l'heure, c'est les cheveux de Clotho, là, c'est les serpents. C'est-à-dire, on voit aussi qu'il y a toute une thématique autour du flux, hein, positif ou négatif, qu'on le retrouve là. Et encore, comme groupe, c'est assez étonnant, parce que là, vous avez un mouvement. Hein, en plus, de face, elle est encore tout à fait déséquilibrée. Et puis, ce drapé hein, qui passe comme ça, ou comme une sorte de drapé de chevelure, hein, sauf que c'est pas les cheveux, qui continue, qui pourrait évoquer ou le sang, mais en même temps, c'est une sorte de drapé de percé, etc., et qui se relie ici. Et puis les ailes brisées, enfin les ailes au sol, donc ça aussi, le mythicard, la chute, de la puissance perdue. Donc c'est très émouvant, étonnant. C'est un marbre alors qu'elle a taillé, hein. Donc en plus c'est un travail exceptionnel de taille. Et je crois qu'il n'existe que ça n'existe que dans cette version en marbre. Je ne pense pas que ça a été coulé en bronze, etc. Ou je me trompe peut-être. Donc, ensuite, alors pour la voilà à l'hôpital psychiatrique, dans lequel elle va vivre plus de 30 ans, puisque alors elle est internée. Ensuite, elle va vers plusieurs locaux, hein, plusieurs endroits dans lesquels elle va être placée. Les lettres qu'elle écrit sont assez terribles, parce qu'effectivement, elle est parfois très lucide. Et elle souffre, par exemple, de ne pas pouvoir travailler, de ne pas pouvoir sculpter.
Elle avait quoi
donc,
comme
c'est...
Comment maladie.
Elle est morte de froid, de faim, etc. Non, mais,
comme maladie, elle avait quoi
Alors, elle était effectivement... Elle commençait à être, on dit, un peu paranoïaque, mais elle avait effectivement un comportement qui devenait de plus en plus asocial. Mmh. Je crois qu'il est dit que vers la fin de sa... Enfin, avant son internement, elle était enfermée chez elle, elle ne sortait plus, elle ne sortait pas, les volets étaient fermés, quelque chose d'assez effroyable. Elle ne répondait pas quand on venait la porte, etc. Elle était dans un état de claustration et de dépression très très grave, avec y compris une persécution, mais qui était vraie et fausse, parce qu'effectivement, on disait que son travail n'était pas d'elle.
Aidée, hein.
Voilà, elle n'était pas aidée. Quand, voilà. C'est moins... Enfin, je ne vais pas excuser Rodin, c'est peut-être moins Rodin que tous les entourages aussi. Et puis sa passion était mal comprise. Comme étant une femme aussi, plus difficile d'exprimer sa passion ou sa liberté. Donc les normes sociales font que cette maladie de persécution était sans doute exacerbée, mais reposée sur une vraie persécution, un sentiment de non-reconnaissance de son travail, de vol de son travail, ou de non-reconnaissance, bien qu'elle ait été exposée parfois. Mais et puis une passion créatrice que l'on pardonnait pas aussi à une femme. Un homme pouvait être comme Van Gogh, ou à la limite on verra Gauguin, etc., ou d'autres pouvaient avoir une sorte de passion, une liberté dans la création. On considérait que c'était quand même une sorte de signe positif. Chez une jeune femme comme elle, c'était considéré comme... Et puis il y a quelque chose aussi sans doute de terrible. À l'âge de un peu plus de 40 ans, enfin, on a tous presque peut-être passé un peu ça déjà, considéré comme un homme peut être, vous avez vu Rodin à côté, le vieux sage avec la barbe, etc., Victor Hugo, Pasteur, vous avez toute cette idée du patriarche. Donc ici, l'âge et la vieillesse sont des choses qui étaient valorisées chez un homme, y compris créateur ou intellectuel, ou tout ce qu'on veut. Chez une femme, il y avait même une image qui était totalement dépressive. Surtout que dépréciée, sans enfant, sans mari, bon, quasiment plus rien. Donc c'est aussi un signe de temps et du siècle qui est assez effroyable. Donc, mais jusqu'à longtemps, hein, quand elle est encore à l'hôpital. En plus, elle dit elle-même, je suis au milieu de gens qui crient de n'importe quoi. Vous imaginez déjà, maintenant, c'est pas terrible. Vous imaginez au début du XXe siècle, c'est le pavillon des fous. Et il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de psy, enfin à peine, quoi. On ne cherche pas à comprendre. Donc elle se retrouve effectivement en enfer. En enfer, et avec en plus la possibilité, sa sincérité, et encore des choses à dire, et elle veut, elle voudrait sculpter, elle ne peut pas. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de matériaux, il n'y a rien. Donc la frustration est effroyable. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont créateurs, créatifs, mais quand on ne peut rien faire, c'est. Enfin, si, ça peut être très très frustrant. Donc il y a une frustration qui certainement l'abîme, plus l'image d'elle-même. Enfin bref, vous avez une catastrophe humaine assez effroyable. Et puis alors là, je ne sais pas creuser l'affaire, mais je ne suis pas biographe. Hein. Pourquoi Paul Claudel, qui était très proche d'elle, l'abandonne vraiment à ce sort-là, je ne sais pas. Lui qui était en plus tous les moyens, qui était ambassadeur, connu, ce qu'on veut.
Justement,
tous les moyens. Alors, voilà, ça le dérangeait. Vraiment, il y a une sorte de rupture terrible de sa part, qui est assez monstrueuse.
Mais c'est les services publics qui l'ont fait.
Oui. Pardon. À la mort de son père.
Et à la mort de son père, voilà.
C'est Claudel. S'il avait les moyens, Claudel.
Ah, bah, largement. Ah, oui, oui.
Je veux dire, dans les familles qui avaient les moyens, on ne laissait pas les gens dans les hôpitaux psychiatriques comme ça. On prenait les moyens pour les garder à la maison.
Qui est-ce qui l'a fait interner?
Eh bien, c'est sa mère aussi. Ah,
la première chose qu'elle a fait, c'est s'en débarrasser.
Oui, parce qu'elle est dérangée, qui ont pris la grande bourgeoise, la bonne bourgeoise.
Ah oui, voilà, c'est ça.
Claudelienne, etc.
Il fallait la cacher.
Et réactionnaire et conservatrice, etc. Donc, c'est quelque chose qui se posait beaucoup. Et la norme religieuse, et surtout sur les femmes. Il y a un livre de Simone de Beauvoir qui, sur sa copine d'enfance, Zaza, qui a été quasiment poussée au suicide aussi. Donc, c'est un peu plus récent. Mais un peu par la norme sociale, justement, de sa famille. Et Simone de Beauvoir, toute sa vie, aura cette image de cette femme qui a été quasiment, cette jeune femme, par la norme religieuse et sociale, bourgeoise, après, c'était poussée à une sorte de suicide. C'est l'explication de Simone de Beauvoir, mais c'est son amie la plus intime de pension, d'enfance, etc. Et donc, c'est une des raisons, c'est une des choses qui va faire réfléchir Simone de Beauvoir sur le sort. Femme au début du XXe siècle, c'est pas très éloigné. Hein. On est dans une problématique proche.
Hein.
Alors, on va quitter le terrain, parce que c'est cette idée aussi que les, quand on y pense. Juste aussi une chose, hein, ça fait pas longtemps qu'on a trouvé même ces photos de Camille Claudel et qu'on le sait. Quand je dis étudiant, on ne parlait pas de Camille Claudel, ça n'existait pas. Elle n'existait pas. Il a fallu les années 80, 82,
83.
Ouais, et puis il y a le film, il y avait
Janine.
Mais qui entretient aussi cette idée de la jeune femme.
Oui.
Comme si on ne voulait pas voir aussi la femme de 40 ans, la femme âgée, qui est ensuite plus âgée, qui souffre, etc. Donc c'est aussi des pans entiers de sa vie. Et puis moi j'étais étonné, ces lettres d'asile sont lucides. C'est pas... y a quelque chose de très sensé dans ce qu'elle dit, le fait qu'elle soit entourée de gens, etc., complètement dérangée, et puis qu'elle soit oui, de cette souffrance, elle est hypersensible, et puis cette impossibilité de travailler, etc., donc c'est horrible. Comme Van Gogh, on verra, quand il est hospitalisé à Arles, en hôpital psychiatrique aussi, le médecin est assez éclairé, il lui permet de peindre, même de sortir, de revenir, de peindre. Vous voyez, même à l'époque, c'était envisageable. Donc là, vraiment, c'est une sorte de poubelle terrible.
Van Gogh est soutenu par sa mère.
Par son frère.
Par son frère.
Et puis, sans doute aussi. On allait peut-être pardonner des excès, certainement. Alors, je voulais mettre en parallèle un petit peu des femmes artistes de l'époque qui cassent un petit peu aussi les stéréotypes, et y compris le rapport au corps et à l'espace, puisque ça, c'est quelque chose qui est en fait aussi un des enjeux, on va dire, conceptuels de Camille Claudel, hein, ce rapport à l'espace et au corps féminin dans l'espace. Alors, une des grandes danseuses de l'époque, c'est Loï Fuller. Alors, je ne sais pas si on dit Loï, Loa, moi je dis Loï Fuller, qui est cette jeune femme très inventive et qui va inventer. Alors, y compris pour des raisons intéressantes. Quand on voit Loï Fuller, elle n'a pas le physique de Tira d'Opéra. Elle est petite, un peu plus ronde, etc. Donc, si vous voulez, il faut voir que dans la danse d'opéra, la danse classique, le corps est très codifié et académique là aussi. Donc, si vous n'avez pas le physique, vous ne pouvez quasiment pas danser ou pas être en représentation. Si ce n'est peut-être dans les cabarets. Vous avez aussi là des injonctions physiques et des stéréotypes. Loï Fuller, qui était, je crois, d'origine américaine, qui a travaillé et vivre essentiellement à Paris, invente quelque chose qui va déployer, à la fois masquer et révéler son corps autrement. Et au lieu d'être sur une scène d'opéra, elle en fait un spectacle, un petit peu une sorte de performance, en prolongeant son corps par de très grandes tiges et des voiles très légers. Et le fait qu'en dansant, eh bien, elle va sculpter l'air. Et le drapé, c'est là aussi, va avec les plis, etc., va devenir un volume, un relief. L'air va les gonfler. Et puis, c'est aussi comme un déploiement de son propre corps qui, tel un papillon, tel une fleur, effectivement, occupe l'espace avec quelque chose de léger. Le corps, son corps, il n'est pas ici dans un tutu. Et puis, elle occupe seule l'espace. Elle joue avec la lumière. Et Rodin, d'ailleurs, va être fasciné par le travail de Loï Fuller, parce que c'est presque une sculpture éphémère à chaque fois. Je disais que la sculpture, c'est aussi conquérir l'espace. Eh bien, Loï Fuller le fait effectivement d'une façon très originale. Alors, elle a un très grand succès, parce qu'effectivement, elle est ni dans la danse de cabaret, ni dans la danse d'opéra, c'est une danse moderne. Et on a même des petites vidéos. Si vous allez sur YouTube, vous trouvez quelques vidéos. On voit Loï Fuller danser. Et alors, la photo aussi. Alors, la photo se prête particulièrement. Ça, vous avez le rapport entre photo, danse et sculpture. Puisque la photographie va aussi figer ce qui était un instant très éphémère, devient presque une sculpture grâce à la photographie. Comme si on allait pouvoir fusionner un instant éphémère du drapé qui devient sculpture. Et Rodin, par exemple, était aussi très intéressé par la danse, les danses balinaises, c'est quelqu'un, les danses, toutes les danses, et le mouvement. Donc vous avez quelque chose où les arts se rejoignent autour du mouvement, rapport à l'espace. Alors, Loï Fuller donc, aura beaucoup de succès. Ou, par exemple, Toulouse-Lautrec fera les affiches, on travaillera sur des affiches autour de Loï Fuller, avec justement quelque chose, une rencontre logique, puisqu'on est dans l'éphémère, on est dans le geste, on a une conquête de l'espace. Le corps disparaît presque dans les traces, dans le mouvement ou dans les drapés. Et c'est en même temps une liberté. Tu peux être engoncé dans des vêtements trop codifiés. Et on voit bien d'ailleurs dans les dessins ici, les études ou les affiches de Toulouse-Lautrec, comment tout à coup on voit les pieds, le visage rayonnant et joyeux. Quand on voit aussi Loï Fuller, c'est la joie qu'elle exprime. Le fait de déployer le corps, une sorte de rapport à la nature, devenir elle-même papillon ou fleur, c'est aussi quelque chose qui l'élève. Et là, d'ailleurs, regardez, le sol n'est absolument pas marqué. Justement, comme si elle était traversée par des mouvements et des flux vitaux, une énergie vitale. Ça aussi, c'est un rapport à la nature qui est en train de se construire différent. On l'avait vu avec les impressionnistes, le rapport à la nature. On l'a vu avec Camille Claudel et la vague, C'est une nature qu'il ne s'agit pas de dominer, mais plutôt d'expérimenter, de se fondre. Et ça aussi, c'est une tendance marginale par rapport au XIXe siècle industriel qui est de dominer la nature, de la contrôler en permanence, voire de la conquérir territorialement, puisque que ce soit les ponts, que ce soit les canaux, que ce soit les rails, que ce soit les villes, on est en la maîtrise même des énergies, c'est vraiment l'idée un peu industrialiste du fin 19e, début 20e. Voir autre chose dans la nature, quelque chose au contraire de libre, c'est, ça traverse beaucoup de courants artistiques et ça se voit un peu comme ça. Alors il y a beaucoup de sculptures hein, de Loïc Fuller, vous en avez d'ailleurs au musée Camille Claudel des petites, hein, qui sont plus ou moins inspirées, et vous voyez, elle apparaît presque comme une déesse primitive. Ça, alors, c'est lié aussi, c'est ce rapport au corps, à la nature, y compris au corps féminin, vu autrement, c'est à articuler, la crise progressive aussi de la religion monothéiste, hein, essentiellement chrétienne, catholique, protestante, etc., qui était très largement majoritaire en France, et ailleurs, et bien, si vous voulez, c'est aussi le corps est vu différemment, y compris les corps féminins, c'est plus Madone ou Vénus, ça devient aussi des corps plus libres. Le rapport à la nature aussi est dû autrement, y compris même une certaine sexualité qui va pouvoir s'exprimer ou être suggérée, donc la nudité, etc. Ce sont des choses qui se libèrent progressivement dans la fin du XIXe siècle. On a vu avec Courbet, et puis, etc. C'est des enjeux hein, qui sont, on imagine, comment est-ce que ça peut être fort hein, et à plus forte raison dans tout ce qui est sculpture. Alors une autre femme, il y a un théâtre, une pièce de théâtre actuellement sur elle, et la tragédie de la perte de ses enfants, de la mort de ses enfants. Hein. Isadora Duncan, qui est aussi quasiment contemporaine. Alors vous avez vu leur date.
On connaît plus.
Oui, Eloïse Fuller, elle était donc de c'est des 69, donc elle est quasiment la même génération que... Mais elles sont mortes assez jeunes. Hein.
Ouais.
Donc à 57 ans, comment elle s'appelle? Isadora Duncan, c'est pareil, hein, 46 ans, 45 ans, etc. Donc vous voyez, ce sont aussi des femmes qui ont une vie brève. Alors chez Isadora Duncan, qui elle aussi était d'origine américaine, etc., rapport à la nature, à la liberté, hein, quelque chose qui est un retour à des sources. La photographie aussi permet de sortir de l'espace de représentation classique, de la scène, hein, permet justement d'aller faire des expériences, d'en témoigner, même quand il n'y a pas de public. Vous avez un rôle de la photographie qui est de plus en plus important dans l'art aussi, pour diffuser des attitudes, dialoguer avec de nouvelles scènes, par exemple naturelles, on ne peut pas faire venir du public, hein, mais pour véhiculer des intentions. Et là, vous avez d'ailleurs des études et des croquis de Rodin sur Isadora Duncan. Vous voyez, ce sont des interrogations qui se croisent. Hein, et là, c'est un hymne, effectivement, à la liberté, un certain érotisme avec la transparence, toujours la nature, hein, une femme seule et des corps différents, avec des mouvements inspirés des ballets, mais quand même décontextés, enlevés, sortis du carcan, on va dire, de l'opéra. Les dessins de Rodin sont assez remarquables aussi de légèreté. Rodin, qu'on peut voir parfois comme quelqu'un de sculpture, puissant, fort, etc., eh bien, il a une part d'une très très grande légèreté dans ses dessins, qui sont presque, il joue sur les taches, il n'y a presque aucun modelé, il y a une très grande invention, une très très grande liberté dans ses dessins, qu'il ne montrait pas. C'était une sorte de travail d'atelier. Alors, il y en a des centaines. Hein. Moi, j'ai presque tout téléchargé sur... Vous avez ça sur Bas Joconde. Sur Bas Joconde, vous avez les dessins de Rodin, vous avez presque toutes ces gouaches et aquarelles, et les nus, alors énormément aussi de nus très érotiques, hein, dans lesquels vous avez l'idée du point de vue de manipulation, on va dire, du corps, avec des modèles, etc., et qui ne montraient pas, évidemment. Et tout d'un coup, vous avez aussi cette idée d'un corps quand même très libre, hein, libre, on va dire, dans l'espace, libre avec les autres, et il joue aussi sur la tâche, hein, et quelque chose de remarquablement fluide et léger. Alors, on pourrait en parler longtemps hein, de Duncan, de Fuller, etc. Mais en tout cas, vous voyez que ce sont des questionnements et des évolutions rapides qui se font avec des problématiques qui peuvent nous rappeler aussi ce que Camille Claudel essaie de voir dans la vague, le rapport au corps, à l'espace, etc. Alors juste, là, je vais vous faire juste un petit rappel de quelques artistes femmes oubliées et contemporaines, avec des parcours singuliers et parfois tragiques. Donc c'est pour montrer un petit peu que le cas de Camille Claudel n'est pas exclusif. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Marie Bashkirtseff, qui a écrit son journal, qui est une jeune femme surdouée, hein, d'origine russe, mais qui vit essentiellement à Nice, comme beaucoup. Pas une colonie, mais une diaspora russe très très importante à Nice, encore maintenant, qui sont revenus, etc. Romain Gary, etc. Beaucoup d'autres. Et puis Irène Demirovski, par exemple, dans la grande ville, aussi à Nice, etc. Marie Bashkirtseff, une jeune femme extrêmement douée, extrêmement précoce. Une de ses œuvres ici est au musée d'Orsay, j'ai oublié le titre, mais qui montre une virtuosité technique prodigieuse, où elle a fait ça quasiment l'année de sa mort, je crois, et qui était aussi sculptrice, mais qui va. Alors, c'est nul, je ne sais plus si elle meurt suicidée ou de maladie, enfin, très très jeune, et elle aussi, qui va être quand même en but à la très grande difficulté de faire valoir son talent, ses œuvres, son travail, donc un destin tragique. Et on peut imaginer aussi, vu le talent qu'elle avait, elle meurt à quoi, ça fait quel âge, ça, 26 ans. À 26 ans, elle avait quand même déjà une œuvre derrière elle, et avec une part de reconnaissance. Mais, et cette sculpture aussi, c'est la seule que j'ai trouvée d'elle, qui est quand même assez. Qui témoigne assez aussi d'une mélancolie évidente, hein, la solitude dans laquelle elle va pouvoir se trouver. Donc, Marie Bashkirtseff, donc il y a un journal, hein, et. Par contre, je suis bête. Cette œuvre, comment elle s'appelle ? Ah, je sais. Alors, là encore, hein, je crois que cette femme que j'ai découverte récemment, Louise Catherine Brélo, alors vous voyez aussi à chaque fois, hein, alors, c'est jeune, hein, qui va être une jeune artiste assez remarquable. On retrouve des thématiques proches de Berthe Morisot et des impressionnistes dans Le Blanc, etc., dans les autoportraits, dans Une vie assez libre. C'est aussi une femme qui va assumer une homosexualité féminine, hein, puisque Madeleine Szilárd était une écrivaine et amie d'elle, donc c'est quelque chose qui est intéressant, ces femmes qui vont assumer cela. Alors, plus tard, vous aurez Colette, hein, qui est une génération un peu plus récente, qui va être aussi une femme libre, dans laquelle on va voir aussi la danse. Alors, Colette va réussir à s'imposer progressivement de façon... c'est exceptionnel. Mais si vous voulez, ce sont des courants où on voit que les choses sont explorées. Mais tout ça, ce sont des femmes qu'on a totalement oubliées, hein, dont il est même très difficile de retrouver des œuvres. Et là aussi, pareil, qui ont des destins très très courts, hein, d'artistes très très courts, comme elle. Alors, elle, justement, je trouve que j'ai déjà parlé d'Hélène Schiffbeck. Et là, justement, on voit un petit peu comment cette jeune femme. Elle a vécu longtemps, elle, effectivement, et a évolué justement dans un art, on va dire, beaucoup plus moderne et contemporain, comme on le voit dans cet autoportrait où elle aborde aussi l'âge, la vieillesse, et avec une évolution des moyens qui montre aussi comment toutes ces jeunes femmes, comme Camille Claudel, comme Marie Bashkirtseff, etc., n'ont pas eu l'occasion d'accompagner tous les espèces de tournants du XXe siècle, hein, vers une expérimentation plus variée des moyens d'expression. Hélène Schiffbeck, c'est une Finlandaise, eux, elle est très reconnue. C'est vraiment... En Finlande, ils sont plus modernes que nous, sur le statut des femmes, c'est vrai, depuis longtemps, et donc elle a été aussi, même de son vivant, elle a été beaucoup plus reconnue, et considérée que... Et il y a une exposition, il existe un très très beau catalogue, il y a une exposition, une rétrospective Schiffbeck, qui 15 ans au musée d'art moderne de la ville de Paris, et le catalogue est remarquable. Et là, vous avez effectivement une femme qui commence à peindre presque de façon presque académique. Comment ?
Elle a fait plein de ses visages.
De ses visages, avec une modernité terrible, presque synthétique, avec une force. Et là, vous voyez, il utilise la trace, le geste, les griffures, etc. Hélène Schierbeck, c'est vraiment... Ah ben voilà, ça c'est elle. Alors vous voyez, on a des thèmes sur l'enfance qui sont assez proches aussi de ceux de Marie et Bachelet. Vous avez des thèmes de l'enfance, hein, de ce point de vue-là. Et il y a aussi cette idée que c'était des thèmes dédiés aux femmes, hein, où vous laissez aux femmes, enfin, les petits-enfants, les salons, etc. Et là, l'autre jour, je vous ai montré les draps aussi qui s'échinent de Hélène Schierbeck. Et là, une virtuosité extraordinaire. Hein, c'est que... Elle a fait ça à 21 ans, pour vous dire. Ça, c'est un travail que vous avez vu, l'invention, la force prodigieuse. Aussi sublime, du point de vue mais du geste, de la justesse des lumières, de la trame, de l'anatomie. C'est, celui-ci est plus classique, mais quand même... Alors, Schierbeck, 1893... Et voilà, justement, la voilà, et des portraits plus de force prodigieuse, et l'expérimentation tout du long, jusqu'à la fin de sa vie, où elle se fait comme si elle disparaissait dans le dehors, etc. Donc, ça, c'est évidemment, pas à savoir ce qu'aurait fait Camille Claudel si elle continue à travailler, mais vu la force et l'imagination, et l'invention dont elle a trouvé, c'est quasiment la même génération, on peut aussi envisager. Donc, c'était. Alors, Schierbeck, là aussi, hein, il a fallu l'exposition pour que je découvre. Et ça aussi, c'est toujours Schierbeck. Un travail de paysage remarquable au niveau synthétique, etc. Comment est-ce que, justement, la bascule du siècle aussi, vous voyez, hein, Camille Claudel est une des dernières sculptrices classiques. Et puis après, c'est vrai que ça bascule dans quelque chose au XXe siècle. On arrive dans quelque chose de différent, mais tac, ça se casse vraiment à la fois. C'est presque vers 1903, je crois, qu'elle est internée, ou un peu avant. 1913, je ne sais pas. Je veux dire qu'après, elle végète, pendant plusieurs années, elle est très très mal. Hein, mais c'est peut-être en 1913, non, vous ne savez pas si c'est... Oui. Parce qu'elle est au moins 30 ans en hôpital psychiatrique, elle est en 1903, parce que là, c'est entre 1903 et 1913. Donc on est vraiment là, dans une bascule du siècle aussi. Et... Alors voilà, Schierbeck aussi, on n'est pas loin du tout d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez les paysages de Munch, hein, des expressionnistes nordiques, norvégiens. Donc là encore, une artiste remarquable à découvrir et redécouvrir. Ah ben voilà, je finis avec elle. Donc, pas fini. C'est des portes qu'on ouvre, hein, parce que les États-Unis, il n'y a pas... on n'épuise pas le sujet. Ouais, j'ai pas avancé tout le monde. Schierbeck, Claudel, Soustari. Alors, on pourrait en trouver d'autres, hein, parce que, effectivement, si ça vous intéresse, de toute façon, ça va vous chercher hein, sur Internet, parce qu'il y a de plus en plus de sites qui abordent la question. Et grâce à la numérisation, je vous dis, c'est beaucoup de ces œuvres, il ne faut quand même pas oublier que beaucoup de ces artistes oubliés ne sont pas dans les collections officielles, donc c'est souvent chez les particuliers, et donc il faut attendre un certain temps que certains particuliers parfois se rendent compte qu'ils ont des œuvres d'artistes intéressantes, parce que parfois c'est oublié, qu'ils les mettent en ligne, qu'il y ait des expositions rétrospectives, parfois les collections particulières abondent les collections déjà connues, et puis ensuite parfois que ce soit numérisé, ou qu'il y ait des catalogues. C'est le cas, vous avez vu, même Berthe Morisot, c'est de plus en plus, on en découvre. Donc c'est assez clair, assez évident. Camille Claudel, je crois que là, presque toutes ses œuvres commencent à être un peu... Mais il resterait peut-être à trouver des carnets, peut-être, des dessins. Je suis étonné de voir ce petit dessin où elle fait son croquis des causeuses, là. C'est assez remarquable. Donc voilà encore des catalogues entiers à chercher. De soi le vœu, c'est bien, hein, on ne sait pas non. Quoi. Regardez chez vous aussi, peut-être que vous avez
intéressant.
Oui, oui, oui. Donc ça c'est pas mal. Alors, là, un morceau important. Qui, vous allez voir, est quand même dans le même configuration, hein, fin 19e siècle, début 20e siècle. Avec là aussi des fins de vie compliquées, avec une marginalité, donc ça c'est assez évident, avec des problématiques qui seront évidemment pas les mêmes, c'est vu par un homme, mais une approche différente, y compris du corps féminin de l'érotisme et de la religion et de la nature. Vous voyez, ce sont des thématiques qui sont qui englobent une bonne partie de cette fin du XIXe siècle. Alors Gauguin est né en 1848. Et là, je voulais vous parler d'abord de son album, son œuvre, y compris comme type d'œuvre, c'est original, qui s'appelle Noah Noah. C'est une sorte de journal ou un carnet de voyage qui existe en facsimilé, alors qu'il est cher. Donc vous avez des reproductions, c'est remarquable, qui est aussi déjà une œuvre qu'il va faire vers la fin de sa vie. C'est vraiment une sorte de bilan de son parcours. Il le fait en bateau et puis à Tahiti, en gros de 95 à 1902, sachant qu'il est né en 1848 et mort en 1903 ou 4, je ne sais plus. Donc c'est quelques années avant sa mort. Donc vous avez aussi, ça c'est intéressant, ce quelqu'un qui fait une sorte de bilan, il ne sait pas évidemment qu'il va mourir, mais bilan déjà d'une trajectoire au sens métaphorique et bien réel.
1904.
Oui, alors pour vous donner quelques exemples, il y a quelqu'un dont j'ai parlé pas mal, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est Pierre Loti, Julien Viaud, qui est né lui en 1850, donc ils sont très proches, et qui va fréquenter les mêmes lieux, essentiellement Tahiti, la Bretagne, etc. On va retrouver aussi des gens comme Stevenson, vous avez toute une Victor Ségalin, ou certains disent Ségalène, donc vous avez aussi. Une thématique qui s'inscrit aussi dans le voyage, tout ce qui est l'outre-mer, et la fuite, partir de ce monde dont on a vu les contraintes et les limites, cette idée de partir ailleurs. Les femmes artistes impressionnistes sont un peu marginales dans leur jardin, la nature, etc. Leurs enfants, c'est déjà aussi une façon de s'écarter, on va dire, de la centralité industrielle, patriarcale, mais positiviste, rationnel, etc., du 19e siècle, cette idée de fuir un petit peu, de réinventer un autre rapport à la nature, c'est aussi quelque chose qui va être plus clair, et inventer aussi la crise religieuse fait qu'on va aborder non seulement les corps, mais y compris la sexualité, la nature, autrement, puisque au lieu d'être l'humanité au sommet d'une création voulue par Dieu, et les humains qui seraient à l'image de Dieu, eh bien, vous avez, avec les tentations un petit peu naturalistes ou animistes qui vont se faire, cette idée de voir y compris le corps humain dans la nature autrement que comme le sommet de la création. C'est-à-dire que vous avez aussi une évolution philosophique du rapport à la nature et au corps qui s'explique par l'écart progressif avec les religions monothéistes. Alors, Gauguin... D'abord le carnet, Noah Noah, alors c'est très intéressant comme objet, puisque vous avez une synthèse de différentes pratiques artistiques, là sur le carnet que vous voyez par exemple ici. Alors Noah Noah c'est du tahitien, qui veut dire la parfumée, c'est en général parfumée, c'est l'île de Tahiti qui, avec ses senteurs, est considérée comme une île odorante, qui sent bon. Donc là, d'ailleurs, c'est pas un hasard, vous avez un rapport très sensuel et sensible. Vous avez, maintenant, ce qui est à la mode, c'est l'imprégnation. C'est quelque chose que l'on voit. Alors, vous avez avec Gauguin, ici, par exemple, dans une page entrouverte, des aquarelles, des photographies prises par lui, des bois imprimés, des bois gravés imprimés, des impressions, des cartes postales, donc il y avait des éléments aussi un peu modernes. Vous aurez parfois des photos de ses propres tableaux recolorisés. C'est que c'est aussi une sorte de bilan, un petit peu, de recherche. Des textes, dont je vous en lirai un ou deux ici, comme par exemple. Des textes avec un véritable journal. Une sorte de reportage aussi sur les lieux. Là, vous avez les mains, vous avez un peu une idée de la taille. Quand même, c'est quelque chose d'assez grand. Donc c'est un livre. Il invente un petit peu le livre d'artiste, parce que c'est pas juste un carré de croquis. Ce n'est pas un carré de recherche, c'est beaucoup plus que ça, on pourrait dire. Ce n'est pas en prévision d'une œuvre, c'est vraiment une sorte de bilan de ses parcours, de son évolution et de ses états d'âme et ses états d'esprit. Alors, l'objet lui-même, voilà par exemple. Alors ça, je vais me permettre de vous lire justement, parce que voilà. Le conteur parle. Mes voisins sont devenus pour moi presque des amis. Je m'habille, je mange comme eux. Quand je ne travaille pas, je partage leur vie d'indolence et de joie avec de brusques passages de gravité. Le soir, au pied des buissons touffus que dominent la tête échevelée des cocotiers, on se réunit par groupes, hommes, femmes et enfants. Les uns sont de Tahiti, les autres des Tonga, puis des Aroraï, des Marquises. Les tons mats de leur corps font une belle harmonie avec le velours du feuillage et de leur poitrine cuivrée, sorte de vibrante mélodie qui s'attend. D'abord, on voit qu'il écrit très bien, hein, c'est poétique. Hein. Et puis, on voit quelqu'un qui vit avec une très belle écriture. Hein, c'est, là, on n'est pas justement dans un expressionnisme rageur, on est au contraire dans quelqu'un qui se fout complètement, non seulement dans le paysage, mais aussi dans la culture et chez les gens. Il est seul, et sa grande idée, c'est de retrouver justement un autre état de nature et de comprendre cette culture, hein, de comprendre cette culture et de s'en imprégner totalement. Et puis, il y a des choses qui sont dites ici, d'abord toute génération, hommes, femmes, enfants, ensemble aussi, cette idée qu'ils viennent de plusieurs îles, mais ils forment un groupe, donc une harmonie, hein, c'est quelque chose, toutes ces parties qui fonctionnent, qui forment un tout, comme s'ils avaient retrouvé presque les Cyclades, ou les traditions grecques, etc., plus peut-être plus modernes et plus progressistes en tant qu'hommes, femmes et enfants. Vous avez aussi cette idée qui est très claire, ils parlent de leur corps, le ton mat de leur peau, le rapport avec aussi la nature qui fusionne la nature. La nuit, c'est très important aussi. Et il dit parfois grave et parfois joyeux. Et ça, c'est typique justement d'une certaine mélancolie poétique qu'il va trouver à Tahiti et qui est une sorte de paradoxe presque existentiel. Intéressant. Et je vais vous en parler un petit peu. D'abord, pourquoi il va à Tahiti ? Ben, c'est grâce à Van Gogh et à Pierre Loti. Van Gogh est un grand lecteur, hein, notamment de Zola, de Pierre Loti. Et ils sont amis, enfin, dans des conditions difficiles. Mais Van Gogh a dit à Gauguin, mais tu devrais lire Le mariage de Pierre Loti. C'est le titre de ce livre, Le mariage de Pierre Loti. Où Pierre Loti raconte son voyage à Tahiti sur les traces de son frère, qui était mort, qui était marin. Pierre Loti s'est engagé dans la marine aussi, officier, etc. Et très jeune quand même, va à Tahiti sur les traces de son frère. Et quand il découvre Tahiti, d'abord il change de nom, il prend un nom tahitien, Loti, il s'appelle Vio, et il décrit Tahiti comme un paradis, un véritable paradis sur terre, puisque, si vous voulez, il n'y a pas besoin de travailler, la nature est abondante, il n'y a pas besoin de se protéger des bêtes féroces, il n'y en a pas, des moustiques, il n'y en a pas, s'il pleut, l'eau est chaude, on n'est jamais volé, puisque c'est en abondance, qui va vous voler quoi que ce soit. Vous avez cette idée aussi d'une harmonie, y compris avec la nature, y compris pas de jalousie, y compris au niveau de la sexualité, etc. Vous avez une sorte de... Alors, j'ai vu récemment que il y avait cette idée de l'accueil, de l'échange érotique et sexuel, c'était aussi une façon de faciliter les échanges de gènes, la multiplication des gènes. C'est que dès qu'il y avait des voyageurs, pouvoir se mêler les gènes, hein, c'était une façon d'être sûr de ne pas être en circuit fermé au niveau génétique. C'est ce qu'on trouve, par exemple, chez les Inuits, par exemple, etc. Donc, au lieu de se refermer de façon l'exogamie, c'était aussi une façon d'assurer une... Ben, ceci dit, pour eux, c'était pas vu comme ça, c'était vu aussi comme une liberté sexuelle, hein, pour les voyageurs, hein, pas uniquement un abus, on va dire. Il y a des discussions sur Gauguin, l'âge de ses compagnes, etc. On dirait que c'était un peu dans l'air du temps. Et puis que à Tahiti, c'était... il n'y a pas besoin de Gauguin pour qu'il y ait une sexualité très précoce. Donc, si vous voulez. Et parfois bisexualité, hein. C'est aussi des choses qui sont comme ça. Donc il découvre un monde. Alors, Loti est un peu dans le même cas de figure. Tuerait-il que c'est une sorte de monde presque rêvé pour Gauguin qui cherche lui aussi à fuir l'Occident. Hein, je reviendrai un petit peu tout à l'heure sur Gauguin. Gauguin est d'origine, alors c'est compliqué aussi. Mais les premiers temps de sa vie, il vit comme un agent financier. Il travaille à la Bourse de Paris, il a beaucoup d'argent. Il vit dans un appartement parisien très riche, hein, très cossu. Et sa femme met avec trois filles. Et c'est quelqu'un qui connaît très bien la vie parisienne, moderne, financière, industrielle, technique, technologique, etc. Mais il a en lui une sorte de démon intérieur qui est très puissant. C'est que, d'abord, il est le petit-fils de cette grande femme extraordinaire qui s'appelle Flora Tristan, qui est donc une écrivaine, une voyageuse femme politique qui était d'origine métisse latino-américaine, qui va vivre au Pérou, qui va essayer de retrouver son héritage péruvien dans un livre qui s'appelle Le journal d'une paria, que j'ai lu, qui est très intéressant, ouais. Donc, c'est une aventurière extraordinaire, qui revient en France, fille-mère, hein, avec sa fille, la mère de Gauguin, qui en France découvre un petit peu l'état aussi de pauvreté, de la considération d'être une femme seule avec un enfant, c'est très difficile, mais elle a une énergie incroyable, et elle va assumer cette situation. En plus, elle fait de son cas particulier, elle en fait aussi un cas général, et elle devient très vite, alors, on est dans les années 40, hein, 1840, socialiste au sens premier du terme, et elle parcourt la France pour attiser la révolte, hein, elle parcourt les fabriques, les industries naissantes, etc., pour prêcher la révolte des hommes et des femmes, ouvriers, ouvrières, etc. Donc c'est quelqu'un qui a un club d'enfer, qui se fait accueillir, qui fait des meetings toute seule, elle est presque seule, hein. Donc une femme extraordinaire, mais qui meurt quasiment juste avant la naissance de son petit-fils, Gauguin. Donc, si vous voulez, alors il y a un livre de Mario Vargas Llosa, je ne sais pas si vous connaissez, c'était auteur péruvien, qui est très beau, dont je connais le titre, mais qui raconte justement les vies croisées de Gauguin et de sa grand-mère Flora Tristan. Donc, c'est aussi une femme écrivain, une femme aventurière, une femme socialiste, investie dans la culture et l'histoire sociale. Donc, si vous voulez, lui, il a cette grand-mère, donc il n'a pas connu, mais je peux l'admettre. Il ne connaît pas son père, je ne sais plus ce qu'il est devenu le père de Gauguin, ni son grand-père. Donc il y a aussi une matrilinéarité de Gauguin. Et quand il se retrouve un petit peu enfermé, il a l'impression de ne pas être à la hauteur, d'être traversé par cette espèce d'appel du lointain, ou de l'aventure, ou de ce qu'il appelle une sauvagerie, hein, au bon sens du terme. Donc je reviens un petit peu, toujours est-il qu'il va quitter progressivement ce monde-là, rencontrer les impressionnistes, et justement l'appel de Tahiti, c'est quelque chose qui va être très très fort pour lui, parce que c'est un appel du lard, du lointain, de peuple primitif, entre guillemets, au bon sens du terme. Hein, avec cette idée justement de s'éloigner du monde occidental qui l'étouffe. Alors, juste un truc pour le détail, il restera en relation avec sa femme hollandaise, Maître, qui était une famille à origine bourgeoise plus classique, y compris avec ses filles, en écrivant, parce que toute sa vie, hein, il continuera à échanger. Il ne s'agit pas de juger, mais en tout cas, il y a une complicité quand même intellectuelle avec sa première femme, puisqu'il continue à échanger avec elle régulièrement, et avec ses filles nées à Paris. Alors, vous avez aussi avec Gauguin une expérimentation des techniques, hein, où c'est quelqu'un qui est venu à la peinture assez tard, hein, presque une trentaine d'années, puisque tout d'un coup, la peinture pour lui, ça serait une sorte de, au début, comme un hobby. Et puis, par la suite, d'abord, il commence à être impressionné par les. Il est ami avec les impressionnistes, une espèce de vie marginale, de bohème le fascine. Il se trouve qu'il a en plus un bon coup de patte, et donc il fait très vite de l'impressionnisme à la manière impressionniste très facilement, et puis progressivement, donc, il évolue. Mais le fait de ne pas venir d'un milieu artistique classique, de ne pas avoir eu de formation classique, le libère un petit peu aussi, parce qu'il n'a pas une norme académique derrière lui, de façon assez claire. Alors, je reviendrai un petit peu dans ce couple ici, amoureux dans une plante, avec une plante qui a presque comme des bras levés, on voit le côté un peu presque mystique, y compris, des relations amoureuses ou du rapport à la nature, comme une sorte aussi de rapport essentiel, originel, hein, comme une sorte de Adam et Ève, mais positif, qui aurait trouvé une sorte de paradis sur Terre. Alors, là, ce que montre Pierre Loti, puis Victor Segalin dans ce livre extraordinaire qui s'appelle « Les immémoriaux », Victor Segalin, c'est un peu plus jeune. Moi, je dis Segalin. Tout le monde dit Segalin, mais il est de Brest, et moi, à Brest, j'ai toujours entendu dire Segalin. Donc, j'ai quitté Victor Segalin, donc ça m'énerve de dire Segalin, même si on dit Segalin, je dis Victor Segalin, désolé. Même la facilité s'appelle Victor Segalin, en fait, donc je continuerai à dire Segalin. Même si je me trompe. Et Segalin lui-même, d'ailleurs, dans les immémoriaux, c'est en terre humaine, je ne sais plus. Il raconte aussi, ces gars-là se fondent dans la culture tahitienne où il essaie de garder la mémoire orale des Tahitiens, hein, et de la transcrire par écrit. C'est un travail aussi avec la mémoire d'une culture qui s'en va et qui disparaît. Donc, il n'y a pas de traces. Il y a quelque chose qui est beau. Et puis, Segala ou Pierre Loti, même Gauguin l'a dit, ils se rendent compte qu'à Tahiti, c'est le paradis, et pourtant, la population, hommes-femmes, sont souvent très mélancoliques. Très mélancoliques, et même il y a un texte qui est très beau qui dit, je ne sais plus de c'est Loti ou Segala qui le dit, mais c'est la langue peut-être dans laquelle il y a plus de mots pour désigner l'inquiétude des esprits de la nuit. C'est-à-dire que, une fois qu'on a tout, ben finalement on est devant une sorte de vide de l'existence. À quoi bon? Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Et donc vous avez une question métaphysique. Si on n'a pas de nécessité, eh bien on est devant le vide pascalien, hein, l'angoisse du vide. Et donc cette espèce de mélancolie, une fois qu'on a satisfait les besoins immédiats, ben, que faire sur Terre? C'est pas possible, on fait quoi? Et donc la méditation, tout d'un coup, fait que Gauguin derrière ça, ou Pierre Loti d'ailleurs, vont voir dans le peuple tahitien aussi, non seulement un rapport harmonieux à la nature, mais en même temps des questions philosophiques et métaphysiques exceptionnelles, puisque justement, on est au cœur de la question de qu'est-ce qu'être humain. C'est justement être finalement confronté à des angoisses, à du vide, à la spiritualité, puisqu'on n'a pas de réponse à notre destinée. Et vous avez chez Gauguin quelque chose qui sera très intéressant, parce qu'on verra que toute sa vie, il est fasciné par ces questions, on va dire, métaphysiques, hein, dégagées de la religiosité. Ça aussi, c'est... Dans les cultures précédentes, on dit, ben, c'est Dieu qui donne la réponse à ce questionnement, que fait-on sur Terre? Et vous avez là, justement, ben, un questionnement que Gauguin va... Et d'ailleurs, cette figure que l'on verra souvent des personnages chez Gauguin, que l'on voit déjà dans nos noms presque toujours, vous avez vu, c'est des gens-là, ils ne les présentent pas dans l'action. Ils sont presque toujours dans une attitude entre demi-sommeil ou de méditation. Ici, cette femme est allongée, mais elle regarde, c'est pas si elle dort, elle est éveillée. C'est de demi-veille que l'on verra très souvent chez lui. Hein, aussi de songe, ou là aussi, des personnages couchés ou allongés, hein, dans une méditation, ou dans un, comment si on était dans un entre-deux. Là aussi, entre-deux, etc. Alors, le carnet, cahier, voilà quelques exemples. Hein, on retrouve d'assez bonne qualité. Pareil, sur Bas de Joconde, je crois, hein, moi j'en ai téléchargé pas mal, les photos, les impressions gravées, des découpages qu'il fait de ses aquarelles qu'il colle, hein, qui sont parfois des études qu'il va travailler en tableau, parfois des photos de tableau faits, etc., donc avec du texte, hein, et que l'on trouve ici avec une grande diversité. Alors parfois, ici vous avez une pleine page d'un paysage, etc., etc. Et puis, dessins, prose de notes, etc. Très 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 libre. Hein, et aussi, alors là, très beau du point de vue du rapport texte-écriture, la légèreté, l'idée que s'il n'y a pas de cadre, donc les choses aussi flottent. Là aussi, cette idée de fusion, de ne pas faire des catégories dans les œuvres, hein, c'est aussi remarquable. Ce travail d'aquarelle ou de gouache légère qui lui permet aussi de faire le lien entre l'encre de l'écriture et puis la liquidité des moyens colorés qu'il utilise, y compris l'encre des impressions. Donc on a aussi une continuité quand même des moyens. Il y a quelque chose que j'ai regardé deux fois à la chambre, hein, de façon différente. Hein, donc, et on ne peut pas s'empêcher de rapprocher ça de la chambre de Van Gogh, hein, sachant qu'ils se sont fréquentés pendant presque un an à Arles, la petite chambre aussi. Un peu à la fois intime du quotidien, donc dépouillé aussi. Vous avez avec Gauguin là-dedans, et dans Noa Noa, on n'a presque aucune trace d'une vie, on va dire, occidentale, moderne et parisienne, qu'il a bien vécue. Alors les textes, hein, sont. Alors vous avez les textes soit dans le Noa Noa, vous pouvez le trouver en facsimilé, à différents prix, il y a plusieurs éditions, mais vous avez aussi en folio, vous avez Oviri ou Écrit d'un sauvage. En folio, c'est un recueil de tous les textes de Gauguin qui sont franchement exceptionnels. Hein. Il y a Noa Noa dedans, et puis il y a aussi ses critiques d'art, son très grand critique d'art, hein, y compris dans des pages élogieuses pardon, sur Degas. Hein, c'était un très bon critique d'art. Il raconte aussi toute sa vie avec Van Gogh à Arles, qui est remarquable, hein, c'est en folio, très émouvant, y compris l'irritation, la fascination et l'estime qu'il a pour Van Gogh. Il raconte tous les épisodes de l'oreille coupée, de leur dispute, tout cela. Donc, c'est c'est aussi quelqu'un qui écrit très très bien, qui écrivait des articles, hein, qui a même tenu un journal quand il arrive à Tahiti. Parce que quand il arrive à Tahiti, il espère trouver une sorte de paradis, mais en fait, il y a déjà la présence française coloniale qui est terrible, que ce soit l'administration les industries et la religion, qui commencent déjà à vouloir exploiter la nature, exploiter les Tahitiens et les Tahitiennes, en les obligeant à travailler, alors en disant qu'ils sont feignants, mais les Tahitiens n'ont plus nécessité de travailler, ils n'ont besoin de rien. Donc évidemment, ils n'ont pas envie de bosser, donc avec le mépris compris pour un peu considérer comme feignants, comme lascifs, comme impudiques, puisqu'ils sont souvent mal habillés, nudité, etc. Donc l'Église catholique s'en mêle aussi, les oblige à s'habiller, à se vêtir, à couvrir le corps, etc. Plus on dit qu'ils sont français, donc il y a des paperasses, etc. Une administration mais obtuse, méprisante, horrible. Et donc Gauguin va même faire un journal contre les colons français. Donc, lui, français, etc., il écrit un journal qu'il publie régulièrement, mais qui est extrêmement méchant et critique, et très pertinent contre la colonisation. Donc d'ailleurs, dans Tahiti, il quitte Papette, il va très vite dans la campagne, et plus tard, c'est aussi pour ça qu'il ira en marquise, pour fuir vraiment, parce qu'il a l'impression que Tahiti est déjà contaminé par, si vous voulez, une sorte d'occidentalisation qui est effroyable, y compris la perte du langage, la perte de la mémoire orale, et c'est d'ailleurs ce que Victor Ségalin défend dans les immémoriaux, parce que Victor Ségalin dit, mais la tradition orale est en train de se perdre. Et donc, Victor Ségalin se fait presque l'outil par l'écriture d'une tradition orale qui est en train de se perdre, comme si effectivement la culture tahitienne était en train d'être déconstruite. Et Gauguin lui-même, c'est un petit peu avant, Ségalin arrive quasiment l'année de la mort de Gauguin au Marquise. Hein. C'est-à-dire, il sera un de ceux qui fait l'inventaire des affaires de Gauguin. Si vous voulez, le lien est très étroit. Hein. Donc, vous avez une continuité, Loti, Gauguin, Ségalin, Stevenson aussi. Donc on est vraiment dans une petite... Ce sont des marginaux, hein. Ce sont des marginaux, mais en même temps qui sont au cœur de choses très, très précises. Donc Gauguin a écrit, hein, y compris à plusieurs niveaux. Alors, j'ai pas scanné tout Noah Noah, mais regardez par exemple comment il l'utilise, et ça c'est intéressant, comme modernité, un tirage photographique et une impression d'un journal sur une de ses œuvres tahitiennes, qui lui est revenu par la poste ou la malle, en plus, je vais sur le courrier entre Paris et Tahiti, hein, en 1890, etc., ce qui va recoloriser légèrement. Donc, vous voyez, une sorte de mise en abyme, y compris de son travail. Alors, à propos, ça donne l'occasion aussi du courrier, hein, des échanges. Il n'y a pas d'avion. Pour aller là-bas, à 20 000 km, je ne sais pas s'ils traversent les États-Unis, s'ils font le tour de l'Afrique ou de l'Amérique du Sud pour aller là-bas, mais enfin, c'est un voyage de plusieurs mois. Une fois qu'il est là-bas, alors, ça aussi, c'est quelque chose qui est très clair, y compris dans Noah Noah et dans sa peinture, c'est que Gauguin ne fuit pas. Il ne fuit pas. S'il fuyait, il aurait coupé tous les ponts. Mais quand il est là-bas, il veut continuer à peindre, à écrire et à correspondre avec la France, avec Paris, avec ses amis peintres et avec le public. C'est pas uniquement pour vivre, pour avoir des sous, c'est y compris pour faire connaître. Il y a une dimension presque messianique chez lui. Il veut faire connaître au monde occidental un autre mode de vie, un autre type d'art. C'est quelqu'un, quand il va là-bas, il y va de façon presque délibérée, pour lui, mais y compris, il se sent investi d'une sorte de mission culturelle ou philosophique, qui est de prouver qu'on peut avoir un autre rapport à la beauté, à la nature, etc., et à la métaphysique. Donc il se débrouille toujours pour envoyer des articles, envoyer ses peintures. Alors, il faut les déclouer, il faut les rouler, il faut les mettre dans des malles, il faut avoir un correspondant en France. Il n'y a pas de téléphone, il faut avoir confiance dans la poste, avoir confiance dans le bateau, avoir confiance dans la mer. Il faut être capable d'attendre des mois la réponse, y compris retournant l'argent, y compris d'autres peintures, parce que il n'y a pas Rougier et Play à Tahiti. Pour avoir des cubes de peinture, pour avoir des toiles, il faut aussi qu'il lui livre. Et il se débrouille à distance pour organiser des expositions à Paris. Donc à distance, il donne des consignes, il dit, ça, tu le maîtrises comme ci, comme ci, comme ça, je t'envoie une série de toiles, fais ceci, ceci, cela, tu me diras comment ça marche. Donc, ses amis lui envoient les articles, lui envoient les revues de presse, lui envoient ça, ça fait sans doute partie d'un article. Alors, souvent, c'est en petit comité, hein, parce que j'ai vérifié, moi j'ai le vieux Larousse en 7 volumes de 1899 à 1912, même dans le supplément, on ne parle pas de Gauguin. Hein, si vous voulez,
ah oui.
Dans le Donc même 10 ans après sa mort, quasiment, on ne parle pas de lui. Donc, vous voulez, il ne fait pas partie des artistes enregistrés, on va dire, hein, même. Il faut attendre un certain temps. Donc c'est un petit milieu, quand même, au-dessus des impressionnistes, etc. Mais si vous voulez, du frère de Van Gogh, hein, Théo, qui sera d'ailleurs un de ses vendeurs, etc. Mais vous voyez qu'il y a une volonté terrible, remarquable. Il fera aussi le voyage plusieurs fois, hein, retourner à Paris. Pas tant que ça, mais il repart. Mais vous voyez qu'il y a une volonté aussi de témoigner et de savoir comment son message est compris par ses amis artistes, mais y compris par le public. Donc son rapport à l'écriture et à l'art, c'est pas une fuite, c'est une expérience personnelle, mais tant qu'il veut aussi témoigner. Il se voit aussi comme un témoin. D'où le texte, qui n'est pas un usage interne, c'est pas un journal intime. C'est vraiment quelque chose qui est, relève plutôt d'un témoignage. Alors, ah tiens, j'ai plus une petite flèche. Pouf. Alors voilà, hein, encore, alors vous voyez aussi bien. Alors, d'ailleurs, le lien, regardez les images christiques. Bah, c'est quelqu'un qui est intéressant, y compris d'un point de vue religieux, parce que autant il peut détester le clergé et le cléricalisme tel qu'il arrive à Tahiti, autant il n'est pas athée. Il n'est pas athée et il voit dans un christianisme primitif que des figures justement de rapport à la nature, d'une certaine métaphysique, hein, ou d'une spiritualité à laquelle il tient beaucoup. C'est-à-dire qu'on verra très souvent des références religieuses même chrétiennes chez Gauguin. Et lui-même, d'ailleurs, se voit, je l'avais dit, ça fait des années, enfin, j'avais dit, je pense qu'on peut voir le christianisme comme quelque chose, et Jésus comme un des personnages les plus romantiques qui soit, et fils de Dieu, mort, trahi, ressuscité, on est vraiment seul, incompris. Vraiment, Jésus, c'est la figure romantique par excellence. D'où cette espèce de marquage romantique dans une bonne partie de l'art du XXe siècle. Gauguin se voit aussi quelque part comme un messie. Hein. Il est abandonné, il est tout seul, il est blessé, il témoigne de votre vie, il rapporte à vous. Enfin, il ne le dit pas, mais si vous voulez, la figure du Christ abandonné, blessé, etc., lui aussi un peu seul, c'est quelque chose qui est sans doute pas du tout innocent. Et il a une culture, effectivement, occidentale chrétienne. On voit aussi l'influence japonaise ici. Alors, l'influence japonaise, il faut savoir que Gauguin connaissait Van Gogh, Monet, il était ami avec tous ces artistes-là. Il a connu aussi, je crois, Maricassa, etc. Degas, hein, c'était vraiment, ils se connaissaient presque tous, hein, tous les autres, c'est des gens qui se connaissaient, qui ont exposé ensemble. Donc, si vous voulez, l'influence japonaise aussi, elle sera très très nette chez Gauguin, on le verra. Et on voit cette idée de faire une synthèse de culture. C'est quelqu'un qui voit la culture occidentale, il la rejette pas. Et ce qu'il rejette, c'est l'occidentalisme moderne, un petit peu technique, industriel et puis cynique. Mais il ne va pas rejeter la culture chrétienne en tant que telle. Il ne rejette pas du tout, il s'intéresse à la culture japonaise et évidemment à la culture maori. Donc, si vous voulez, vous avez aussi cette idée de s'ouvrir, de trouver une sorte de synthèse dont lui serait presque destiné comme. Par son héritage sauvage, il dit « je suis un sauvage », grâce à sa grand-mère, hein, Flora Christian, je suis un peu ce personnage qui est peut-être capable de faire, etc. Et texte aussi, pas de rature, hein, mais oui, c'est aussi un très beau travail, une écriture magnifique. Et russe, c'est pas avec. Il reprend aussi des légendes, hein, c'est par les cieux de la terre, etc. Donc, très beau travail. Et voilà. Alors, vous avez aussi dans Noir Noir des carnets de dépêches qui sont des carnets d'études et de croquis des gens. Alors, ça aussi, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux gens, hein, aux paysages qui sont tout nouveaux. Alors, ce qui est nouveau, c'est tout. C'est la façon dont le paysage est construit avec les volcans, les plantes, les montagnes, la mer. Tout est nouveau. Les corps sont différents, les habits, les costumes, les couleurs, même les proportions des corps sont très différentes. La nudité est différente. La peau, les postures, parce que là, vous n'avez pas, par exemple, de gens qui travaillent quasiment pas. Donc, vous n'avez pas cette espèce de logique des corps en train de travailler que les réalistes avaient pu chercher. Vous voyez dans ces croquis, dans ces études, que l'influence japonaise se fait comprendre, notamment par le travail sur les aplats. Hein. Vous avez plutôt une tendance à la surface, plutôt qu'au volume. Hein. Ça, c'est une leçon qu'il va tirer de Monet, de Van Gogh, c'est qu'on va abandonner, et du japonisme, et de Marikasa, on va abandonner le modelé et la perspective au bénéfice des surfaces et des couleurs, et des aplats. Alors, on verra aussi que chez Gauguin, la couleur aura aussi une autre fonction. Et en ce sens-là, il est extrêmement novateur. Mais on voit dans ses croquis, plus que la perspective, ce sont des grandes compositions, presque d'aplats. Les couleurs aussi très libres, etc. Comme on les voit ici. Alors, les corps féminins, alors, effectivement, hein, vraisemblablement, certaines de ces compagnes érotiques sont tout juste pubères. Hein. Ceci dit, c'est qu'il y a aussi tous les âges, hein, vraisemblablement. Peut-être même, d'après certaines théories, certains hommes. Et puisque là-bas, il y a des. L'androgynité est acceptée et fait partie de la culture. Et donc, si vous voulez, il y a aussi cette idée-là que les frontières, y compris entre les genres, sont légèrement brouillées, on va dire. Il n'y a pas non plus cette idée de la famille, vraiment, hein, puisque ce sont des groupes qui sont plutôt ouverts, hein, pas des tribus ou des clans, alors je ne sais pas exactement, mais il n'y a pas cette espèce de propriété, y compris des corps. Et que ce soit homme ou femme, vous avez une liberté relationnelle et affective et sexuelle assez clairement établie, qui avait fait fantasmer d'ailleurs déjà les marins. Hein. On voit ça dans la Pérouse, je ne sais plus. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qu'il faudrait fantasmer, mais qui n'est pas du tout vu comme une sorte de débauche, entre guillemets, à Tahiti, c'est un mode de vie. Alors, le paysage, cette nouveauté des couleurs, alors, la recherche de la couleur, la couleur pure, je l'ai abordé avec Marie Cassatt, avec Berthe Morisot, avec Monet, Manet, Van Gogh évidemment, Gauguin aussi, c'est-à-dire que plus on se détache du modelé, plus on est fasciné par la couleur pure. Hein, la couleur pure et l'aplat qui va conquérir progressivement la surface. Alors, je continue sur la présentation. Alors voilà quelques présentations et des éditions de Noah Noah, hein, qui ont été... Alors, édité, réédité, etc. Je crois que de son vivant, c'est de ma faute. Je ne crois même pas que ça ait été édité de son vivant. Hein, parce que c'est quelque chose qui a été trouvé, mais ça n'a pas pu être édité. Ça le fut par la suite de différentes façons. Et là, vous avez, alors ça c'est assez marrant, on va retrouver du modelé et du dégradé dans ces gravures, y compris dans ces sculptures. Et donc, quand ces gravures représentent certaines de ces sculptures. Là, on va retrouver du modelé. Alors, dans cette gravure de gauche, hein, qui est un travail sur bois, après psyllogravure, eh bien, vous avez aussi quelque chose qui est intéressant, c'est un détour total par rapport aux proportions du corps, représentation du corps. On s'écarte totalement de l'anatomie qui a anatomie, on va dire, mimétique, qui depuis l'art gothique en France, quand on regarde les sculptures gothiques du XIIIe siècle, elles sont anatomiquement très très justes et très proportionnées, presque inspirées de l'art grec. Donc on peut dire que depuis 1200 jusqu'à 1900, pendant 700 ans, on a une anatomie qui est mimétique, qui est juste, avec les proportions qu'on va retrouver chez l'homme de Vitruve, le sexe au milieu du corps, l'entrejambe, le nombril sur le nombre d'or, les bras écartés, ça fait un carré, ça fait la hauteur, etc. Le modelé, etc. On a une sorte de norme qui est juste mimétique. Là, Gauguin retrouve un côté primitif, en tout cas dans la romance, c'est qu'on s'écarte de la mimétique du corps. Le corps peut être vu autrement. Hein, pour exprimer, justement, au lieu d'exprimer une apparence, ça va exprimer au contraire des forces intérieures ou quelque chose qui sont des puissances qui ne sont pas visibles. Et donc, on ne va pas s'intéresser à ce qui est toujours visible, puisque justement, le plus intéressant aussi, c'est parfois, c'est l'invisible. Et de ce côté, métaphysique chez Gauguin sera assez clair. C'est justement ce que l'on voit, c'est une réalité, mais c'est une réalité aussi qui est peut-être décevante et frustrante ou insuffisante. Et c'est en ce sens-là aussi la façon dont les Tahitiens voient la nature. Ils en sont satisfaits, mais ça ne suffit pas. Puisque cette mélancolie, ce monde intérieur, fait que les Tahitiens, même dans un paradis sur Terre, ils ne se contentent pas de ça. Donc, si vous voulez, ce que l'on voit, ce que l'on veut percevoir, ne dit rien peut-être de l'essentiel qui est essentiellement, qui reste métaphysique. Alors, Voilà d'autres bois gravés de Gauguin, un bois gravé des impressions, sur lequel il y a le côté un petit peu justement simplifié. Il a cette idée de. Ça aussi, c'est quelque chose. Il s'écarte de cette idée de maîtrise, de virtuosité, le côté un peu artisanal, le côté brut, le côté simple. C'est quelque chose qu'il avait partagé avec Van Gogh. Quand Van Gogh à Arles est avec Gauguin, ils disent que ce qui les intéresse, c'est de faire comme des chromos, comme des images d'Épinal. C'est retrouver les peintures des enseignes, une sorte de simplicité, de force qui s'écarte de la virtuosité académique qui est stéréotypée, qui est lassante, et puis qui finalement ne fait que démontrer une technique, mais qui perd son âme. Et donc, en voulant retrouver des moyens très simplifiés, Gauguin là aussi recherche l'aquarelle, le papier, le journal, l'encre, les aplats, tout ça, ce sont des choses, y compris le côté un peu inachevé, artisanal, retrouver un métier simple, avec des gens si simples, c'est quelque chose qui parcourt cette période. Et voilà encore quelques bois gravés de Gauguin, avec effectivement ces personnages. Celui-ci, alors, on le voit porter une grappe, hein, mais en fait, c'est une référence à la Bible. J'ai oublié ce que c'était, le retour de la terre promise, je crois, etc. Et ça, j'y reviendrai. Donc voilà, c'est, y compris le côté pas forcément bien imprimé, ce sont des choses qu'il aime bien, parce que il y a cette espèce de détachement des choses matérielles. Hein. Donc, faire quelque chose de trop soigné, ça serait accorder peut-être trop d'importance à la matérialité des choses. Donc, cette espèce de pauvreté apparente, y compris les moyens, il assume totalement. Alors, l'intérêt aussi de ces bois gravés, c'est qu'il peut faire des multiples. Hein. Il y a donc plusieurs multiples. Alors, la langue tahitienne aussi, c'est quelque chose qui est intéressant, puisque il écrit la plupart du temps en tahitien, c'est que non seulement vous avez vu, il va se mêler discrètement au groupe au tahitien ou tahitienne, dans la vie quotidienne, etc., mais y compris il essaie d'en comprendre la langue, puisqu'il écrit presque toujours en tahitien ses peintures, une langue qui semble chantante, et puis aussi moins fermée, pleine de poésie, puisque. Voilà. Alors je continue. Alors tout ça, ce sont ces bois gravés. Alors, sur lesquels il reprend des structures que l'on verra dans certaines de ses peintures. Là, on verra des auréoles. Alors, les dieux. Alors, les dieux, là aussi, Gauguin est quand même pris dans une sorte de paradoxe, comme sera Victor Segalin plus tard, etc. C'est qu'en fait, quand il arrive à Tahiti, déjà, la tradition tahitienne a du plomb dans l'aile. Et si vous voulez, Gauguin invente presque les dieux tahitiens. C'est-à-dire qu'il reconstitue une spiritualité et des divinités, ou presque des légendes tahitiennes. Donc il se fout effectivement de la culture tahitienne, il s'en imprègne, mais il refabrique presque comme si lui-même devenait une sorte de chaman tahitien pour faire revivre des divinités qui, d'après ce que l'on dit, étaient déjà un peu perdues, hein, étaient déjà abîmées et qui se perdaient. Donc Gauguin invente presque des idoles et des statues tahitiennes comme si tout d'un coup il se faisait lui-même une sorte d'intercesseur. Hein. Et certains des dieux tahitiens sont des dieux presque inventaires. Les dieux, on est bien effectivement dans une problématique plus animiste ou plus polythéiste que monothéiste, ça c'est très clair. Et on reviendra là-dessus. Alors la grande nuit, hein, ça aussi, voilà encore une. Mais la nuit, comme je vous dis, il y a beaucoup d'importance parce que justement on n'est plus dans les apparences, il n'y a que des silhouettes, etc. Et puis cette espèce de mélancolie nocturne, des esprits de la nuit, où il n'y a pas d'électricité, donc on est. La première scène qu'il décrit, c'est les gens de la nuit qui vont occuper l'espace par les chants, par les odeurs, par les sensations physiques. Et donc la nuit, c'est aussi une manière de percevoir autrement. Donc c'est encore un thème qui est. Alors qu'il travaille essentiellement en bois gravé, puisque la peinture, on verra que c'est difficile à évoquer. Alors, offrande de gratitude, là aussi, c'est un terme, là encore, des sortes de totems, de toute figure toute puissante qu'il va presque inventer, que l'on voit ici. Alors voilà aussi des très beaux bois gravés autour du thème de la nuit, hein, du bien et du mal, alors le diable, etc., l'univers créé. Donc on voit que chez lui, il y a vraiment une dimension totalement métaphysique, mystique, presque créationniste. Quand il va là-bas, il y a l'idée d'Adam et Ève, il y a l'idée de la création du monde, l'idée de reconstituer presque une sorte de religion synthétique de plusieurs cultures. Donc non seulement les techniques sont synthétiques, mais aussi les cultures, les religions. Ça, c'est ce qui l'anime de façon très claire. Là, vous voyez les figures qu'on avait retrouvées dans Noah Noah. Alors ça, le cahier Noah Noah, de ce point de vue-là, est intéressant, parce qu'avec les bois gravés, il peut reprendre des impressions. La photographie aussi lui permet de réutiliser, d'avoir des multiples. Plus les aquarelles, donc ça aussi, c'est une sorte de construction, ce catalogue avec plusieurs éléments de tailleur. Et voilà, alors cauchemar et métamorphose, voilà encore des sujets et des dessins rehaussés de Gauguin, l'idée des cauchemars, j'en ai parlé, les esprits de la nuit, les métamorphoses aussi, c'est cette idée que les frontières, il n'y a pas de... Il dilue les frontières, Gauguin, culturelles, on est presque de genre, artistiques, et y compris entre l'intérieur et l'extérieur, le monde intérieur et le monde extérieur, et y compris le réel et le fantastique. Et là, c'est très clair. L'idée d'une métamorphose, c'est une forme qui se déforme, justement, et on le voit encore clairement. La nudité, ici, n'est pas du tout une nudité que l'on va voir de pose érotique, comme on a pu voir, ni même une nudité un peu anatomique ou curieuse, comme chez Degas, curieuse, y compris comme chez Toulouse-Lautrec, dans des corps un peu étranges. Là, on est dans une sorte d'évidence. Il n'y a pas du tout le fait d'être nu au soleil, etc., ou dans la nature, c'est quelque chose qui ne rentre pas du tout dans une catégorie, on va dire, d'un érotisme de consommation. Voilà, là encore, j'ai retrouvé ça récemment, c'est très difficile à trouver ces œuvres, je ne sais même plus où j'ai trouvé ces dessins rehaussés d'aquarelles. Mais là encore, vous trouvez, il est comme s'il réinventait une figure féminine presque divine, la femme avec l'enfant et les forces et les bovins. On retrouve des mythologies presque préhistoriques qui sont assez claires. Et là, c'est considéré comme quasiment Adam et Ève chassés du paradis qui sont obligés d'aller travailler, de se vêtir quasiment. Alors les bois et les bois gravés, on a vu des impressions, etc., c'est que Gauguin avait aussi travaillé à la période de Noah Noah, quand il est aux Marquises vers la fin de sa vie, il fait des bas-reliefs qui vont orner sa maison, c'est une petite maison qu'il a construite, sur le modèle tahitien, qu'il appelle la maison du jouir, le jouir au sens large du terme, c'est pas juste le côté érotique, etc. Et ici, d'ailleurs, le titre c'est « Soyez amoureuse, vous serez heureuse ». Donc, vous avez donc un rapport, et là on retrouve la source, qui est inspiré de Ingres d'ailleurs, mais qui n'a été sa version. Et puis, là encore, ce jeu sur les corps, et c'est là où vous voyez que cette espèce de représentation des corps s'écarte de l'académisme, que ce soit Claudel ou Rodin ou Toulouse-Lautrec ou Gauguin, on est là aussi d'autres choses. Et puis des bois rehaussés de couleurs, de teintures, qui vont orner sa maison. Voilà sa maison. Elle était à l'exposition Gauguin, il y avait une reconstitution d'une partie de sa maison, avec l'étage, etc., et puis, relativement simple, et puis cette espèce de beau linteau sur lequel vous avez des bas-reliefs gravés, un très faible relief, justement, entre le dessin, la gravure et la peinture. Et voilà en détail. Alors, maison du jouir, hein, soyez heureux, soyez amoureux, etc. Vous avez donc ce rapport aussi à l'univers féminin, où, comparé, on va dire, à la prédation, qui pouvait se faire au XIXe siècle, et tel qu'on le voit, c'est une domination masculine, là, il évoque quand même le côté érotique ou sentimental, ou affectif, du côté féminin. C'est même une sorte d'injonction. Donc, quels qu'aient été les rapports de Gauguin avec la population féminine variée de l'île, il y a ici quelque chose qui, c'est pas un consommateur pédophile, je pense. Je pense que c'est un peu plus subtil que ça chez lui. Il s'agit vraiment de rentrer dans un monde, puisque... Voilà. Alors, ça, ce sont donc des linteaux. Et puis, vous avez ici la guerre et la paix, nourriture pour l'esprit et l'âme. On voit bien ce côté presque religieux de Gauguin. Vous avez ce travail sur la guerre du côté de la force viril un peu caricatural avec la barbe, la tradition patriarcale, et la paix ici, dans une sorte de nudité, plutôt du côté, effectivement, des végétaux, et là, un animal plutôt plein de force, etc. Et ce sont des choses qu'il va reprendre. Et nourriture pour l'esprit et l'âme, ça c'est très clair de sa part. Alors, je termine juste avec celle-ci, justement. On va revenir un petit peu en arrière, justement, sur Gauguin, où on parlera un petit peu justement de la Bretagne, et de lui, vous le voyez ici, presque couronné d'une auréole. Et on voit dans la peinture La Belle Angèle, où vous avez effectivement deux univers, breton et tahitien, qui se rejoignent par la couleur, sans qu'on sache où l'on est, on dit la Réunion. C'est une des premières peintures où on n'a pas d'espace défini. Jusqu'à présent, on a toujours des corps dans des lieux, même vu que c'était une problématique essentielle, qui, où, etc. Donc là, on a Belle Angèle, on ne sait pas où elle est. On ne sait pas si c'est un miroir, c'est une peinture, on ne sait pas si elle flotte. Et des espaces qui sont totalement éloignés de 20 000 km sont réunis par la couleur pure. Ce bleu-là, on ne sait pas si c'est bleu du ciel, bleu d'une tapisserie, bleu du souvenir, etc. Et puis vous avez aussi des rapports formels, puisque la posture de la Belle Angèle et la posture de la statuette haïtienne sont presque les mêmes, presque le lotus. Elle n'a pas les jambes croisées, mais ses mains croisées. La coiffe d'Angèle, hein, c'est du côté du fouet, etc. Et puis. Pantanelle. Et puis vous avez ici, regardez, cette sculpture qui a presque une coiffe similaire à l'époque. Et puis les yeux bridés, les yeux un peu fermés, et le côté aussi mélancolique, un peu fermé, qu'il va trouver d'ailleurs en Bretagne, des gens qui ne sont pas forcément de causeurs, enfin, pas tous. Et,
les exceptions.
Et vous avez cette idée aussi d'un monde intérieur, qu'il va trouver en Bretagne, on verra. Et pour lui, il y a des rapprochements qui se font entre certaines cultures occidentales, certaines cultures... Tahitienne, etc. Et je reviendrai un peu sur la Bélangèle. Et la religion, mais qui est vue ici non pas comme le cléricalisme, la morale, mais au contraire comme une sorte de méditation, avec une frontière fragile entre ces mondes. Et là aussi, il se représente comme une sorte de semi-dieu entre le serpent, une sorte de serpent et les pommes, le bien et le mal, une couronne. Et vous avez vu cette façon de se représenter un petit peu comme une sorte d'être. Presque mythique. Et puis on voit dans les deux la couleur, l'importance de la couleur. La couleur n'est plus ici, elle ne dénote rien, elle est associée en fait à aucune réalité. La couleur est purement spirituelle. C'est vraiment là le premier artiste qui utilise la couleur non plus pour désigner une réalité, mais pour exprimer des émotions, des sentiments et une certaine spiritualité. Et là aussi, vous avez Gauguin, donc on se détache non seulement du mimétisme des formes, mais y compris de la couleur comme quelque chose qui serait une désignation, mais là, son autonomie. Et vous voyez aussi l'aplat. Là, c'est presque pas de profondeur, pas de perspective, quasiment. Donc vous avez, avec Gauguin, des recherches artistiques